Là, quand je me nommais, la bouche de Boutin se fendit en éclats de rire comme un mortier qui crève. Cette gaieté, monsieur, me causa l'un de mes plus vifs chagrins. Elle me révélait sans fard tous les changements qui étaient survenus en moi. J'étais donc méconnaissable, même pour l'œil du plus humble et du plus reconnaissant de mes amis. Jadis, j'avais sauvé la vie à Boutin, mais c'était une revanche que je lui devais. Je ne vous dirai pas comment il me rendit ce service. La scène eut lieu en Italie, à Ravenne. La maison où Boutin m'empêcha d'être poignardé n'était pas une maison fort décente. À cette époque, je n'étais pas colonel, j'étais simple cavalier, comme Boutin. Heureusement, cette histoire comportait des détails qui ne pouvaient être connus que de nous seuls. Et quand je les lui rappelais, son incrédulité diminua. Puis je lui contai les accidents de ma bizarre existence. Quoique mes yeux, ma voix fussent, me dit-il, singulièrement altérés, que je n'eusse plus ni cheveux, ni dents, ni sourcils, que je fusse blanc comme un albinos, il finit par retrouver son colonel dans le mendiant, après 1000 interrogations auxquelles je répondis victorieusement. Il me raconta ses aventures, elles n'étaient pas moins extraordinaires que les miennes. Il revenait des confins de la Chine, où il avait voulu pénétrer après s'être échappé de la Sibérie. Il m'apprit les désastres de la campagne de Russie et la première abdication de Napoléon. Cette nouvelle est une des choses qui m'ont fait le plus de mal. Nous étions deux débris curieux après avoir ainsi roulé sur le globe, comme roulent dans l'océan les cailloux emportés d'un rivage à l'autre par les tempêtes. À nous deux, nous avions vu l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, la Russie, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Dalmatie, l'Angleterre, la Chine, la Tartarie, la Sibérie. Il ne nous manquait que d'être allés dans les Indes et en Amérique. Enfin, plus ingambe que je ne l'étais, Boutin se chargea d'aller à Paris le plus lestement possible afin d'instruire ma femme de l'état dans lequel je me trouvais. J'écrivis à Madame Chabert une lettre bien détaillée. C'était la quatrième, monsieur. Si j'avais eu des parents, tout cela ne serait peut-être pas arrivé, mais il faut vous l'avouer, je suis un enfant d'hôpital, un soldat qui pour patrimoine avait son courage, pour famille tout le monde, pour patrie la France, pour tout protecteur le bon Dieu. Je me trompe, j'avais un père, l'empereur. Ah, s'il était debout, le cher homme, et qu'il vit son Chabert comme il me nommait, dans l'état où je suis, mais il se mettrait en colère. Que voulez-vous? Notre soleil s'est couché, nous avons tous froid maintenant. Après tout, les événements politiques pouvaient justifier le silence de ma femme. Boutin partit. Il était bien heureux, lui. Il avait deux ours blancs supérieurement dressés qui le faisaient vivre. Je ne pouvais l'accompagner. Mes douleurs ne me permettaient pas de faire de longues étapes. Je pleurais, monsieur, quand nous nous séparâmes, après avoir marché aussi longtemps que mon état put me le permettre en compagnie de ses ours et de lui. À Karlsruhe, j'eus un accès de névralgie à la tête et restai 6 semaines sur la paille dans une auberge. Je ne finirai pas, monsieur, s'il fallait vous raconter tous les malheurs de ma vie de mendiant. Les souffrances morales, auprès desquelles pâlissent les douleurs physiques, excitent cependant moins de pitié parce qu'on ne les voit point. Je me souviens d'avoir pleuré devant un hôtel de Strasbourg où j'avais donné jadis une fête et où je n'obtins rien, pas même un morceau de pain. Ayant déterminé de concert avec Boutin l'itinéraire que je devais suivre, j'allais à chaque bureau de poste demander s'il y avait une lettre et de l'argent pour moi. Je vins jusqu'à Paris sans avoir rien trouvé. Combien de désespoir ne m'a-t-il pas fallu dévorer ? Boutin sera mort, me disais-je. En effet, le pauvre diable avait succombé à Waterloo. J'appris sa mort plus tard et par hasard. Sa mission auprès de ma femme fut sans doute infructueuse. Enfin, j'entrai dans Paris en même temps que les Cosaques. Pour moi, c'était douleur sur douleur. En voyant les rues sans France, je ne pensais plus que je n'avais ni souliers aux pieds ni argent dans ma poche. Oui, monsieur, mes vêtements étaient en lambeaux. La veille de mon arrivée, je fus forcé de bivouaquer dans les bois de Claye. La fraîcheur de la nuit me causa sans doute un accès de je ne sais quelle maladie qui me prit quand je traversais le faubourg Saint-Martin. Je tombai presque évanoui à la porte d'un marchand de fer. Quand je me réveillais, j'étais dans un lit à l'Hôtel-Dieu. Là, je restai pendant un mois assez heureux. Je fus bientôt renvoyé. J'étais sans argent, mais bien portant et sur le bon pavé de Paris. Avec quelle joie et quelle promptitude j'allais rue du Mont-Blanc, où ma femme devait être logée dans un hôtel à moi. Bah, la rue du Mont-Blanc était devenue la rue de la Chaussée-d'Antin. Je n'y vis plus mon hôtel, il avait été vendu, démoli. Des spéculateurs avaient bâti plusieurs maisons dans mes jardins. Ignorant que ma femme fût mariée à M. Ferraud, je ne pouvais obtenir aucun renseignement. Enfin, je me rendis chez un vieil avocat qui jadis s'était chargé de mes affaires. Le bonhomme était mort après avoir cédé sa clientèle à un jeune homme. Celui-ci m'apprit, à mon grand étonnement, l'ouverture de ma succession, sa liquidation, le mariage de ma femme et la naissance de ses deux enfants. Quand je lui dis être le colonel Chabert, il se mit à rire si franchement que je le quittai sans lui faire la moindre observation. Ma détention de Stuttgart me fit songer à Charenton, et je résolus d'agir avec prudence. Alors, monsieur, sachant où demeurait ma femme, je m'acheminai vers son hôtel, le cœur plein d'espoir. « Eh bien, dit le colonel avec un mouvement de rage concentré, je n'ai pas été reçu lorsque je me fis annoncer sous un nom d'emprunt, et le jour où je pris le mien, je fus consigné à sa porte. » Pour voir la comtesse rentrant du bal ou du spectacle au matin, je suis resté pendant des nuits entières collé contre la borne de sa porte cochère. Mon regard plongeait dans cette voiture qui passait devant mes yeux avec la rapidité de l'éclair et où j'entrevoyais à peine cette femme qui est mienne et qui n'est plus à moi. « Oh, dès ce jour, j'ai vécu pour la vengeance !» s'écria le vieillard d'une voix sourde en se dressant tout à coup devant Derville. « Elle sait que j'existe. » Elle a reçu de moi, depuis mon retour, deux lettres écrites par moi-même. Elle ne m'aime plus. Moi, j'ignore si je l'aime ou si je la déteste. Je la désire et la maudis tour à tour. Elle me doit sa fortune, son bonheur. Eh bien, elle ne m'a pas seulement fait parvenir le plus léger secours. Par moments, je ne sais plus que devenir. À ces mots, le vieux soldat retomba sur sa chaise et redevint immobile. Derville resta silencieux, occupé à contempler son client. « L'affaire est grave, dit-il enfin machinalement. Même en admettant l'authenticité des pièces qui doivent se trouver à Heilsberg, il ne m'est pas prouvé que nous puissions triompher tout d'abord. Le procès ira successivement devant trois tribunaux. Il faut réfléchir à tête reposée sur une semblable cause, elle est toute exceptionnelle. » « Oh !» répondit froidement le colonel en relevant la tête par un mouvement de fierté. « Si je succombe, je saurai mourir, mais en compagnie. » Là, le vieillard avait disparu. Les yeux de l'homme énergique brillaient, rallumés au feu du désir et de la vengeance. « Il faudra peut-être transiger, » dit l'avoué. « Transiger ?» répéta le colonel Chabert. « Suis-je mort ou suis-je vivant ?» « Monsieur, reprit l'avoué, vous suivrez, je l'espère, mes conseils. Votre cause sera ma cause. Vous vous apercevrez bientôt de l'intérêt que je prends à votre situation, presque sans exemple dans les fastes judiciaires. En attendant, je vais vous donner un mot pour mon notaire qui vous remettra, sur votre quittance, 50 francs tous les 10 jours. Il ne serait pas convenable que vous vinssiez chercher ici des secours. » Si vous êtes le colonel Chabert, vous ne devez être à la merci de personne. Je donnerai à ces avances la forme d'un prêt. Vous avez des biens à recouvrer, vous êtes riche. » Cette dernière délicatesse arracha des larmes au vieillard. Derville se leva brusquement, car il n'était peut-être pas de coutume qu'un avoué parût s'émouvoir. Il passa dans son cabinet, d'où il revint avec une lettre non cachetée qu'il remit au comte Chabert. Lorsque le pauvre homme la tint entre ses doigts, il sentit 2 pièces d'or à travers le papier. « Voulez-vous me désigner les actes, me donner le nom de la ville, du royaume ?» dit l'avoué. Le colonel dicta les renseignements en vérifiant l'orthographe des noms de lieux. Puis il prit son chapeau d'une main, regarda Derville, lui tendit l'autre main, une main calleuse, et lui dit d'une voix simple, « Ma foi, monsieur, après l'empereur, vous êtes l'homme auquel je devrais le plus. Vous êtes un brave. » L'avoué frappa dans la main du colonel, le reconduisit jusque sur l'escalier et l'éclaira. « Boucard, » dit Derville à son maître clerc, « je viens d'entendre une histoire qui me coûtera peut-être 25 louis. Si je suis volé, je ne regretterai pas mon argent, j'aurai vu le plus habile comédien de notre époque. » Quand le colonel se trouva dans la rue et devant un réverbère, il retira de la lettre les 2 pièces de 20 francs que l'avoué lui avait données et les regarda pendant un moment à la lumière. Il revoyait de l'or pour la première fois depuis 9 ans. « Je vais donc pouvoir fumer des cigares, » se dit-il. Environ 3 mois après cette consultation nuitamment faite par le colonel Chabert chez Derville, le notaire chargé de payer la demi-solde que l'avoué faisait à son singulier client vint le voir pour conférer sur une affaire grave et commença par lui réclamer 600 francs donnés au vieux militaire. « Tu t'amuses donc à entretenir l'ancienne armée ?» lui dit en riant ce notaire nommé Crotta, jeune homme qui venait d'acheter l'étude où il était maître clerc et dont le patron venait de prendre la fuite en faisant une épouvantable faillite. « Je te remercie, mon cher maître, » répondit Derville, « de me rappeler cette affaire-là. Ma philanthropie n'ira pas au-delà de 25 louis. Je crains déjà d'avoir été la dupe de mon patriotisme. » Au moment où Derville achevait sa phrase, il vit sur son bureau les paquets que son maître clerc y avait mis. Ses yeux furent frappés à l'aspect des timbres oblongs, carrés, triangulaires, rouges, bleus, apposés sur une lettre par les postes prussiennes, autrichiennes, bavaroises et françaises. « Ah !» dit-il en riant, « voici le dénouement de la comédie. Nous allons voir si je suis attrapé. » Il prit la lettre et l'ouvrit, mais il n'y put rien lire, elle était écrite en allemand. « Boucard, allez vous-même faire traduire cette lettre et revenez promptement, » dit Derville en entr'ouvrant la porte de son cabinet et tendant la lettre à son maître clerc. Le notaire de Berlin, auquel s'était adressé l'avoué, lui annonçait que les actes dont les expéditions étaient demandées lui parviendraient quelques jours après cette lettre d'avis. « Les pièces étaient, disait-il, parfaitement en règle et revêtues des légalisations nécessaires pour faire foi en justice. » En outre, il lui mandait que presque tous les témoins des faits consacrés par les procès-verbaux existaient à Prussie-Chélot et que la femme à laquelle M. le comte Chabert devait la vie vivait encore dans un des faubourgs d'Heilsberg. « Ceci devient sérieux !» s'écria Derville quand Boucard eut fini de lui donner la substance de la lettre. « Mais dis donc, mon petit, » reprit-il en s'adressant au notaire, « je vais avoir besoin de renseignements qui doivent être en ton étude. » N'est-ce pas chez ce vieux fripon de Roguin ? Nous disons l'infortuné, le malheureux Roguin, reprit maître Alexandre Crotta en riant et interrompant Derville. N'est-ce pas chez cet infortuné qui vient d'emporter 800 000 francs à ses clients et de réduire plusieurs familles au désespoir que s'est faite la liquidation de la succession Chabert ? Il me semble que j'ai vu cela dans nos pièces Ferraud. Oui, répondit Crotta, j'étais alors 3e clerc. Je l'ai copiée et bien étudiée, cette liquidation. Rose Chapotel, épouse et veuve de Hyacinthe, dit Chabert, comte de l'Empire, grand officier de la Légion d'honneur. Ils s'étaient mariés sans contrat, ils étaient donc communs en biens. Autant que je puis m'en souvenir, l'actif s'élevait à 600 000 francs. Avant son mariage, le comte Chabert avait fait un testament en faveur des Hospices de Paris, par lequel il leur attribuait le quart de la fortune qu'il posséderait au moment de son décès, le domaine héritait de l'autre quart. Il y a eu licitation, vente et partage, parce que les avoués sont allés bon train. Lors de la liquidation, le monstre qui gouvernait alors la France a rendu par un décret la portion du fisc à la veuve du colonel. Ainsi, la fortune personnelle du comte Chabert ne se montrait donc qu'à 300 000 francs. « Par conséquent, mon vieux, » répondit Crotta, vous avez parfois l'esprit juste, vous autres avoués, quoiqu'on vous accuse de vous le fausser en plaidant aussi bien le pour que le contre. » Le comte Chabert, dont l'adresse se lisait au bas de la première quittance que lui avait remise le notaire, demeurait dans le faubourg Saint-Marceau, rue du Petit Banquier, chez un vieux maréchal des logis de la garde impériale, devenu nourrisseur, et nommé Vergniaud. Arrivé là, Derville fut forcé d'aller à pied à la recherche de son client, car son cocher refusa de s'engager dans une rue non pavée et dont les ornières étaient un peu trop profondes pour les roues d'un cabriolet. En regardant de tous les côtés, l'avoué finit par trouver, dans la partie de cette rue qui avoisine le boulevard, entre deux murs bâtis avec des ossements et de la terre, deux mauvais pilastres en moellons que le passage des voitures avait ébréchés, malgré deux morceaux de bois placés en forme de borne. Ces pilastres soutenaient une porte couverte d'un chaperon en tuiles, sur laquelle ces mots étaient écrits en rouge « Vergniaud nourrisseur ». À droite de ce nom se voyaient des œufs et à gauche une vache, le tout peint en blanc. La porte était ouverte et restait sans doute ainsi pendant toute la journée. Au fond d'une cour assez spacieuse s'élevait, en face de la porte, une maison, si toutefois ce nom convient à l'une de ces masures bâties dans les faubourgs de Paris et qui ne sont comparables à rien, pas même aux plus chétives habitations de la campagne, dont elles ont la misère sans avoir la poésie. En effet, au milieu des champs, les cabanes ont encore une grâce que leur donne la pureté de l'air, la verdure, l'aspect des champs, une colline, un chemin tortueux, des vignes, une haie vive, la mousse des chaumes et les ustensiles champêtres. Mais à Paris, la misère ne se grandit que par son horreur. Quoique récemment construite, cette maison semblait près de tomber en ruine. Aucun des matériaux n'y avait eu sa vraie destination. Ils provenaient tous des démolitions qui se font journellement dans Paris. Derville lut sur un volet fait avec les planches d'une enseigne « Magasin de nouveautés ». Les fenêtres ne se ressemblaient point entre elles et se trouvaient bizarrement placées. Le rez-de-chaussée, qui paraissait être la partie habitable, était exhaussé d'un côté, tandis que de l'autre les chambres étaient enterrées par une éminence. Entre la porte et la maison s'étendait une mare pleine de fumier où coulaient les eaux pluviales et ménagères. Le mur sur lequel s'appuyait ce chétif logis et qui paraissait être plus solide que les autres, étaient garnis de cabanes grillagées où de vrais lapins faisaient leurs nombreuses familles. À droite de la porte cochère se trouvait la vacherie surmontée d'un grenier à fourrage et qui communiquait à la maison par une laiterie. À gauche était une basse-cour, une écurie et un toit à cochons qui avaient été finis comme celui de la maison, en mauvaises planches de bois blanc clouées les unes aux autres et mal recouvertes avec du jonc. Comme presque tous les endroits où se cuisinent les éléments du grand repas que Paris dévore chaque jour, la cour dans laquelle Derville mit le pied offrait les traces de la précipitation voulue par la nécessité d'arriver à heure fixe. Ces grands vases de fer blanc bossués dans lesquels se transporte le lait et les pots qui contiennent la crème étaient jetés pêle-mêle devant la laiterie avec leurs bouchons de linge. Les loques trouées qui servaient à les essuyer flottaient au soleil étendues sur des ficelles attachées à des piquets. Ce cheval pacifique, dont la race ne se trouve que chez les laitières, avait fait quelques pas en avant de sa charrette et restait devant l'écurie dont la porte était fermée. Une chèvre broutait le pampre de la vigne grêle et poudreuse qui garnissait le mur jaune et les ardées de la maison. Un chat était accroupi sur les pots à crème et les léchait. Les poules, effarouchées à l'approche de Derville, s'envolèrent en criant et le chien de garde aboya. L'homme qui a décidé le gain de la bataille des Lots serait là, se dit Derville, en saisissant d'un seul coup d'œil l'ensemble de ce spectacle ignoble. La maison était restée sous la protection de trois gamins. L'un, grimpé sur le faîte d'une charrette chargée de fourrage vert, jetait des pierres dans un tuyau de cheminée de la maison voisine, espérant qu'elles y tomberaient dans la marmite. L'autre essayait d'amener un cochon sur le plancher de la charrette qui couchait à terre, tandis que le troisième, pendu à l'autre bout, attendait que le cochon y fût placé pour l'enlever en faisant faire la bascule à la charrette. Quand Derville leur demanda si c'était bien là que demeurait M. Chabert, aucun ne répondit et tous trois le regardèrent avec une stupidité spirituelle, s'il est permis d'allier ces deux mots. Derville réitéra ses questions sans succès. Impatienté par l'air narquois des trois drôles, il leur dit de ces injures plaisantes que les jeunes gens se croient le droit d'adresser aux enfants, et les gamins rompirent le silence par un rire brutal. Derville se fâcha. Le colonel, qui l'entendit, sortit d'une petite chambre basse située près de la laiterie et apparut sur le seuil de sa porte avec un flegme militaire inexprimable. Il avait à la bouche une de ses pipes notablement culottées, expression technique des fumeurs, une de ces humbles pipes de terre blanche nommées des brûle-gueules. Il leva la visière d'une casquette horriblement crasseuse, aperçut Derville et traversa le fumier pour venir plus promptement à son bienfaiteur en criant d'une voix amicale aux gamins « Silence dans les rangs !» Les enfants gardèrent aussitôt un silence respectueux qui annonçait l'empire exercé sur eux par le vieux soldat. « Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ? » dit-il à Derville. « Allez le long de la vacherie. Tenez là, le chemin est pavé !» s'écria-t-il en remarquant l'indécision de l'avoué qui ne voulait pas se mouiller les pieds dans le fumier. En sautant de place en place, Derville arriva sur le seuil de la porte par où le colonel était sorti. Chabert parut désagréablement affecté d'être obligé de le recevoir dans la chambre qu'il occupait. En effet, Derville n'y aperçut qu'une seule chaise. Le lit du colonel consistait en quelques bottes de paille sur lesquelles son hôtesse avait étendu deux ou trois lambeaux de ses vieilles tapisseries, ramassées je ne sais où, qui servent aux laitières à garnir les bancs de leurs charrettes. Le plancher était tout simplement en terre battue. Les murs salpêtrés, verdâtres et fendus répandaient une si forte humidité que le mur contre lequel couchait le colonel était tapissé d'une natte en jonc. Le fameux carrick pendait à un clou. Deux mauvaises paires de bottes gisaient dans un coin. Nul vestige de linge. Sur la table vermoulue, les bulletins de la grande armée réimprimés par Plancher étaient ouverts et paraissaient être la lecture du colonel, dont la physionomie était calme et sereine au milieu de cette misère. Sa visite chez Derville semblait avoir changé le caractère de ses traits, où l'avoué trouva les traces d'une pensée heureuse, une lueur particulière qui avait jeté l'espérance. « La fumée de la pipe vous incommode-t-elle » dit-il en tendant à son avoué la chaise à moitié dépaillée. « Mais, colonel, vous êtes horriblement mal ici !» Cette phrase fut arrachée à Derville par la défiance naturelle aux avoués et par la déplorable expérience que leur donnent de bonne heure les épouvantables drames inconnus auxquels ils assistent. « Voilà, se dit-il, un homme qui aura certainement employé mon argent à satisfaire les trois vertus théologales du troupier, le jeu, le vin et les femmes. « C'est vrai, monsieur, nous ne brillons pas ici par le luxe. C'est un bivouac tempéré par l'amitié, mais... » Ici, le soldat lança un regard profond à l'homme de loi. « Mais je n'ai fait de tort à personne, je n'ai jamais repoussé personne et je dors tranquille. » L'avoué songea qu'il y aurait peu de délicatesse à demander compte à son client des sommes qu'il lui avait avancées et il se contenta de lui dire « Pourquoi n'avez-vous donc pas voulu venir dans Paris où vous auriez pu vivre aussi peu chèrement que vous vivez ici, mais où vous auriez été mieux ?»« Mais, répondit le colonel, les braves gens chez lesquels je suis m'avaient recueilli, nourri gratis pendant un an. Comment les quitter au moment où j'avais un peu d'argent ? Puis le père de ces trois gamins est un vieux Égyptien. Comment un Égyptien ? Nous appelons ainsi les troupiers qui sont revenus de l'expédition d'Égypte de laquelle j'ai fait partie. Non seulement tous ceux qui en sont revenus sont un peu frères, mais Vergniaud était alors dans mon régiment, nous avions partagé de l'eau dans le désert. Enfin, je n'ai pas encore fini d'apprendre à lire à ces marmots. Il aurait bien pu vous mieux loger pour votre argent, lui. Bah, dit le colonel, ses enfants couchent comme moi sur la paille. Sa femme et lui n'ont pas un lit meilleur, ils sont bien pauvres, voyez-vous. Ils ont pris un établissement au-dessus de leurs forces. Mais si je recouvre ma fortune... Enfin, suffit. Colonel, je dois recevoir demain ou après vos actes d'Alsberg. Votre libératrice vit encore. Sacré argent, dire que je n'en ai pas, s'écriait-il en jetant sa pipe par terre. Une pipe culottée est une pipe précieuse pour un fumeur, mais ce fut par un geste si naturel, par un mouvement si généreux que tous les fumeurs et même la régie lui eussent pardonné ce crime de lèse-tabac. Les anges auraient peut-être ramassé les morceaux. « Colonel, votre affaire est excessivement compliquée, » lui dit Derville en sortant de la chambre pour s'aller promener au soleil le long de la maison. « Elle me paraît, » dit le soldat, « parfaitement simple. L'on m'a cru mort, me voilà. Rendez-moi ma femme et ma fortune. Donnez-moi le grade de général auquel j'ai droit, car j'ai passé colonel dans la garde impériale la veille de la bataille d'Eylau. » Les choses ne vont pas ainsi dans le monde judiciaire, reprit Derville. Écoutez-moi, vous êtes le comte Chabert, je le veux bien, mais il s'agit de le prouver judiciairement à des gens qui vont avoir intérêt à nier votre existence. Ainsi, vos actes seront discutés. Cette discussion entamera 10 ou 12 questions préliminaires. Tout iront contradictoirement jusqu'à la Cour suprême et constitueront autant de procès coûteux qui traîneront en longueur, quelle que soit l'activité que j'y mette. Vos adversaires demanderont une enquête à laquelle nous ne pourrons pas nous refuser et qui nécessitera peut-être une commission rogatoire en Prusse. Mais supposons tout au mieux. Admettons qu'il soit reconnu promptement par la justice que vous êtes le colonel Chabert. Savons-nous comment sera jugée la question soulevée par la bigamie fort innocente de la comtesse Ferraud ? Dans votre cas, le point de droit est en dehors du code et ne peut être jugé par les juges que suivant les lois de la conscience, comme fait le jury dans les questions délicates que présentent les bizarreries sociales de quelques procès criminels. Or, vous n'avez pas eu d'enfant de votre mariage, et M. le comte Ferraud en a 2 du sien. Les juges peuvent déclarer nul le mariage où se rencontrent les liens les plus faibles, au profit du mariage qui en comporte de plus fort, du moment où il y a bonne foi chez les contractants. Serez-vous dans une position morale bien belle, en voulant mordicus avoir à votre âge et dans les circonstances où vous vous trouvez une femme qui ne vous aime plus ? Vous aurez contre vous votre femme et son mari, 2 personnes puissantes qui pourront influencer les tribunaux. Le procès a donc des éléments de durée. Vous aurez le temps de vieillir dans les chagrins les plus cuisants. Et ma fortune ? Vous vous croyez donc dans une grande fortune ? N'avais-je pas 30 000 livres de rente ? Mon cher colonel, vous aviez fait, en 1799, avant votre mariage, un testament qui léguait le quart de vos biens aux hospices. C'est vrai ? Eh bien, vous, censé mort, n'a-t-il pas fallu procéder à un inventaire, à une liquidation, afin de donner ce quart aux hospices ? Votre femme ne s'est pas fait scrupule de tromper les pauvres. L'inventaire, où sans doute elle s'est bien gardée de mentionner l'argent comptant, les pierreries, où elle aura produit peu d'argenterie et où le mobilier a été estimé à 2/3 au-dessous du prix réel, soit pour la favoriser, soit pour payer moins de droits au fisc, et aussi parce que les commissaires-priseurs sont responsables de leurs estimations, l'inventaire ainsi fait a établi 600 000 francs de valeur. Pour sa part, votre veuve avait droit à la moitié. Tout a été vendu, racheté par elle, elle a bénéficié sur tout, et les hospices ont eu leurs 75 000 francs. Puis, comme le fisc héritait de vous, attendu que vous n'aviez pas fait mention de votre femme dans votre testament, l'empereur a rendu par un décret à votre veuve la portion qui revenait au domaine public. Maintenant, à quoi avez-vous droit ? À 300 000 francs seulement, moins les frais. Et vous appelez cela la justice ? Dit le colonel ébahi. Mais certainement. Elle est belle. Elle est ainsi, mon pauvre colonel. Vous voyez que ce que vous avez cru facile ne l'est pas. Madame Ferraud peut même vouloir garder la portion qui lui a été donnée par l'empereur. Mais elle n'était pas veuve, le décret est nul. D'accord, mais tout se plaide. Écoutez-moi. Dans ces circonstances, je crois qu'une transaction serait, et pour vous et pour elle, le meilleur dénouement du procès. Vous y gagnerez une fortune plus considérable que celle à laquelle vous auriez droit. Ce serait vendre ma femme. Avec 24 000 francs de rente, vous aurez, dans la position où vous vous trouvez, des femmes qui vous conviendront mieux que la vôtre et qui vous rendront plus heureux. Je compte aller voir aujourd'hui même Madame la comtesse Ferraud afin de sonder le terrain. Mais je n'ai pas voulu faire cette démarche sans vous en prévenir. Allons ensemble chez elle. Fais comme vous êtes, dit l'avoué. Non, non, colonel, non. Vous pourriez y perdre tout à fait votre procès. Mon procès est-il gagnable ? Sur tous les chefs, répondit Derville. Mais, mon cher colonel Chabert, vous ne faites pas attention à une chose. Je ne suis pas riche, ma charge n'est pas entièrement payée. Si les tribunaux vous accordent une provision, c'est-à-dire une somme à prendre par avance sur votre fortune, ils ne l'accorderont qu'après avoir reconnu vos qualités de comte Chabert, grand officier de la Légion d'honneur. « Tiens, je suis grand officier de la Légion, je n'y pensais plus, » dit-il naïvement. « Eh bien, jusque-là, » reprit Derville, « ne faut-il pas plaider, payer des avocats, lever et solder les jugements, faire marcher les huissiers et vivre ?» Les frais des instances préparatoires se monteront, à vue de nez, à plus de 12 ou 15 000 francs. Je ne les ai pas, moi qui suis écrasé par les intérêts énormes que je paie à celui qui m'a prêté l'argent de ma charge. Et vous, où les trouverez-vous ? De grosses larmes tombèrent des yeux flétris du pauvre soldat et roulèrent sur ses joues ridées. À l'aspect de ses difficultés, il fut découragé. Le monde social et judiciaire lui pesait sur la poitrine comme un cauchemar. « J'irai, s'écria-t-il, au pied de la colonne de la place Vendôme. Je crierai là, je suis le colonel Chabert qui a enfoncé le grand carré des Russes à Eylau. Le bronze, lui, me reconnaîtra. Et l'on vous mettra sans doute à Charenton. » À ce nom redouté, l'exaltation du militaire tomba. N'y aurait-il donc pas pour moi quelque chance favorable au ministère de la guerre ? Les bureaux, dit Derville. Allez-y, mais avec un jugement bien en règle qui déclare nul votre acte de décès. Les bureaux voudraient pouvoir anéantir les gens de l'Empire. Le colonel resta pendant un moment interdit, immobile, regardant sans voir, abîmé dans un désespoir sans bornes. La justice militaire est franche, rapide, elle décide à la turque et juge presque toujours bien. Cette justice était la seule que connut Chabert. En apercevant le dédale de difficultés où il fallait s'engager, en voyant combien il fallait d'argent pour y voyager, le pauvre soldat reçut un coup mortel dans cette puissance particulière à l'homme et que l'on nomme la volonté. Il lui parut impossible de vivre en plaidant. Il fut pour lui mille fois plus simple de rester pauvre, mendiant, de s'engager comme cavalier si quelque régiment voulait de lui. Ses souffrances physiques et morales lui avaient déjà vicié le corps dans quelques-uns des organes les plus importants. Il touchait à l'une de ces maladies pour lesquelles la médecine n'a pas de nom, dont le siège est en quelque sorte mobile comme l'appareil nerveux qui paraît le plus attaqué parmi tous ceux de notre machine, affection qu'il faudrait nommer le spleen du malheur. Quelque grave que fût déjà ce mal invisible, mais réel, il était encore guérissable par une heureuse conclusion. Pour ébranler tout à fait cette vigoureuse organisation, il suffirait d'un obstacle nouveau, de quelque fait imprévu qui en romprait les ressorts affaiblis et produirait ces hésitations, ces actes incompris, incomplets, que les physiologistes observent chez les êtres ruinés par les chagrins. En reconnaissant alors les symptômes d'un profond abattement chez son client, Derville lui dit « Prenez courage, la solution de cette affaire ne peut que vous être favorable. Seulement, examinez si vous pouvez me donner toute votre confiance et accepter aveuglément le résultat que je croirais le meilleur pour vous. » « Faites comme vous voudrez, » dit Chabert. « Oui, mais vous vous abandonnerez à moi comme un homme qui marche à la mort ?» Ne vais-je pas rester sans état, sans nom ? Est-ce tolérable ? Je ne l'entends pas ainsi, dit l'avoué. Nous poursuivrons à l'amiable un jugement pour annuler votre acte de décès et votre mariage afin que vous repreniez vos droits. Vous serez même, par l'influence du comte Ferraud, porté sur les cadres de l'armée comme général et vous obtiendrez sans doute une pension. Allez donc, répondit Chabert, je me fie entièrement à vous. « Je vous enverrai donc une procuration à signer, » dit Derville. « Adieu, bon courage. S'il vous faut de l'argent, comptez sur moi. » Chabert serra chaleureusement la main de Derville et resta le dos appuyé contre la muraille sans avoir la force de le suivre autrement que des yeux. Comme tous les gens qui comprennent peu les affaires judiciaires, il s'effrayait de cette lutte imprévue. Pendant cette conférence, à plusieurs reprises, il s'était avancé, hors d'un pilastre de la porte cochère, la figure d'un homme posté dans la rue pour guetter la sortie de Derville et qui l'accosta quand il sortit. C'était un vieil homme vêtu d'une veste bleue, d'une cotte blanche plissée semblable à celle des brasseurs et qui portait sur la tête une casquette de loutre. Sa figure était brune, creusée, ridée, mais rougie sur les pommettes par l'excès du travail et hâlée par le grand air. « Excusez, monsieur, dit-il à Derville en l'arrêtant par le bras, si je prends la liberté de vous parler, mais je me suis douté, en vous voyant, que vous étiez l'ami de notre général. »« Eh bien, dit Derville, en quoi vous intéressez-vous à lui ? Mais qui êtes-vous ? Reprit le défiant avoué. « Je suis Louis Vergniaud, répondit-il d'abord, et j'aurai deux mots à vous dire. » Et c'est vous qui avez logé le comte Chabert comme il l'est ? Pardon, excuse, monsieur, il a la plus belle chambre. Je lui aurais donné la mienne si je n'en avais eu qu'une. J'aurais couché dans l'écurie. Un homme qui a souffert comme lui, qui apprend à lire à mes mioches, un général, un égyptien, le premier lieutenant sous lequel j'ai servi. Faudrait voir. Du tout, il est le mieux logé. J'ai partagé avec lui ce que j'avais. Malheureusement, ce n'était pas grand-chose. Du pain, du lait, des œufs. Enfin, à la guerre comme à la guerre, c'est de mon cœur. Mais il nous a vexés.
Lui ?
Oui, monsieur, vexé, là, ce qui s'appelle en plein. J'ai pris un établissement au-dessus de mes forces, il le voyait bien. Ça vous le contrariait et il pansait le cheval. Je lui dis. Mais, mon général. Bah, qui dit, je ne veux pas être comme un fainéant, et il y a longtemps que je sais brosser le lapin. J'avais donc fait des billets pour le prix de ma vacherie à un nommé Grados. Le connaissez-vous, monsieur ? Mais, mon cher, je n'ai pas le temps de vous écouter. Seulement, dites-moi comment le colonel vous a vexé. Il nous a vexé, monsieur, aussi vrai que je m'appelle Louis Vergniaud et que ma femme en a pleuré. Il a su par les voisins que nous n'avions pas le premier sou de notre billet. Le vieux grognard, sans rien dire, a amassé tout ce que vous lui donniez, a guetté le billet et l'a payé. C'te malice. Que ma femme et moi, nous savions qu'il n'avait pas de tabac, ce pauvre vieux, et qu'il s'en passait. Oh, maintenant, tous les matins, il a ses cigares. Je me vendrais plutôt. Non, nous sommes vexés. Donc, je voudrais vous proposer de nous prêter, vu qu'il nous a dit que vous étiez un brave homme, une centaine d'écus sur notre établissement, afin que nous lui fassions faire des habits, que nous lui meublions sa chambre. Il a cru nous acquitter, pas vrai ? Eh bien, au contraire, voyez-vous, l'ancien nous a endettés et vexés. Il ne devait pas nous faire cette avanie-là. Il nous a vexés, et des amis encore. Foi d'honnête homme, aussi vrai que je m'appelle Louis Vergniaud, je m'engagerai plutôt que de ne pas vous rendre cet argent-là. »
Derville regarda le nourrisseur et fit quelques pas en arrière pour revoir la maison, la cour, les fumiers, les tables, les lapins, les enfants.
« Par ma foi, je crois qu'un des caractères de la vertu est de ne pas être propriétaire, » se dit-il. « Va, tu auras tes 100 écus, et plus même. Mais ce ne sera pas moi qui te les donnerai. Le colonel sera bien assez riche pour t'aider, et je ne veux pas lui en ôter le plaisir.
« Ce sera-t-il bientôt ?»«
Mais oui. »«
Ah, mon Dieu, que mon épouse va être contente !»
Et la figure tannée du nourrisseur sembla s'épanouir. « Maintenant, se dit Derville en remontant dans son cabriolet, allons chez notre adversaire. Ne laissons pas voir notre jeu, tâchons de connaître le sien et gagnons la partie d'un seul coup. Il faudrait l'effrayer ? Elle est femme. De quoi s'effraient le plus les femmes ? Mais les femmes ne s'effraient que de... »
Il se mit à étudier la position de la comtesse et tomba dans une de ces méditations auxquelles se livrent les grands politiques en concevant leurs plans, en tâchant de deviner le secret des cabinets ennemis. Les avoués ne sont-ils pas en quelque sorte des hommes d'État chargés des affaires privées ? Un coup d'œil jeté sur la situation de M. le comte Ferraud et de sa femme est ici nécessaire pour faire comprendre le génie de l'avoué. M. le comte Ferraud était le fils d'un ancien conseiller au Parlement de Paris qui avait émigré pendant le temps de la Terreur et qui, s'il sauva sa tête, perdit sa fortune. Il rentra sous le consulat et resta constamment fidèle aux intérêts de Louis XVIII, dans les entours duquel était son père avant la Révolution. Il appartenait donc à cette partie du faubourg Saint-Germain qui résista noblement aux séductions de Napoléon. La réputation de capacité que se fit le jeune comte, alors simplement appelé M. Ferraud, le rendit l'objet des coquetteries de l'empereur, qui souvent était aussi heureux de ses conquêtes sur l'aristocratie que du gain d'une bataille. On promit au comte la restitution de son titre, celle de ses biens non vendus, on lui montra dans le lointain un ministère, une sénatorerie. L'empereur échoua. M. Ferraud était, lors de la mort du comte Chabert, un jeune homme de 26 ans, sans fortune, doué de formes agréables, qui avait des succès, et que le faubourg Saint-Germain avait adopté comme une de ses gloires. Mais Madame la comtesse Chabert avait su tirer un si bon parti de la succession de son mari qu'après 18 mois de veuvage, elle possédait environ 40 000 livres de rente. Son mariage avec le jeune comte ne fut pas accepté comme une nouvelle par les coteries du faubourg Saint-Germain. Heureux de ce mariage qui répondait à ses idées de fusion, Napoléon rendit à Madame Chabert la portion dont héritait le fisc dans la succession du colonel. Mais l'espérance de Napoléon fut encore trompée. Madame Ferraud n'aimait pas seulement son amant dans le jeune homme, elle avait été séduite aussi par l'idée d'entrer dans cette société dédaigneuse qui, malgré son abaissement, dominait la cour impériale. Toutes ses vanités étaient flattées autant que ses passions dans ce mariage. Elle allait devenir une femme comme il faut. Quand le faubourg Saint-Germain sut que le mariage du jeune comte n'était pas une défection, les salons s'ouvrirent à sa femme. La restauration vint. La fortune politique du comte Ferraud ne fut pas rapide. Il comprenait les exigences de la position dans laquelle se trouvait Louis XVIII, et il était du nombre des initiés qui attendaient que l'abîme des révolutions fût fermé, car cette phrase royale, dont se moquèrent tant les libéraux, cachait un sens politique. Néanmoins, l'ordonnance citée dans la longue phase cléricale qui commence cette histoire lui avait rendu deux forêts et une terre dont la valeur avait considérablement augmenté pendant le séquestre. En ce moment, quoique le comte Ferraud fût conseiller d'État, directeur général, il ne considérait sa position que comme le début de sa fortune politique. Préoccupé par les soins d'une ambition dévorante, il s'était attaché comme secrétaire à un ancien avoué, ruiné, nommé Delbecq, homme plus qu'habile, qui connaissait admirablement les ressources de la chicane et auquel il laissait la conduite de ses affaires privées. Le rusé praticien avait assez bien compris sa position chez le comte pour y être probe par spéculation. Il espérait parvenir à quelque place par le crédit de son patron, dont la fortune était l'objet de tous ses soins. Sa conduite démentait tellement sa vie antérieure qu'il passait pour un homme calomnié. Avec le tact et la finesse dont sont plus ou moins douées toutes les femmes, la comtesse, qui avait deviné son intendant, le surveillait adroitement et savait si bien le manier qu'elle en avait déjà tiré un très bon parti pour l'augmentation de sa fortune particulière. Elle avait su persuader à Delbecq qu'elle gouvernait M. Ferraud et lui avait promis de le faire nommer président d'un tribunal de première instance dans l'une des plus importantes villes de France s'il se dévouait entièrement à ses intérêts. La promesse d'une place inamovible qui lui permettrait de se marier avantageusement et de conquérir plus tard une haute position dans la carrière politique en devenant député fit de Delbecq l'âme damnée de la comtesse. Il ne lui avait laissé manquer aucune des chances favorables que les mouvements de bourse et la hausse des propriétés présentèrent dans Paris aux gens habiles pendant les trois premières années de la Restauration. Il avait triplé les capitaux de sa protectrice, avec d'autant plus de facilité que tous les moyens avaient paru bons à la comtesse afin de rendre promptement sa fortune énorme. Elle employait les émoluments des places occupées par le comte aux dépenses de la maison afin de pouvoir capitaliser ses revenus, et Delbecq se prêtait au calcul de cette avarice sans chercher à s'en expliquer les motifs. Ces sortes de gens ne s'inquiètent que des secrets dont la découverte est nécessaire à leurs intérêts. D'ailleurs, il en trouvait si naturellement la raison dans cette soif d'or dont sont atteintes la plupart des Parisiennes, et il fallait une si grande fortune pour appuyer les prétentions du comte Ferraud, que l'intendant croyait parfois entrevoir dans l'avidité de la comtesse un effet de son dévouement pour l'homme de qui elle était toujours éprise. La comtesse avait enseveli les secrets de sa conduite au fond de son cœur. Là étaient des secrets de vie et de mort pour elle, là était précisément le nœud de cette histoire. Au commencement de l'année 1818, la Restauration fut assise sur des bases en apparence inébranlables, ses doctrines gouvernementales, comprises par les esprits élevés, leur parurent devoir amener pour la France une ère de prospérité nouvelle. Alors la société parisienne changea de face. Madame la comtesse Ferraud se trouva par hasard avoir fait tout ensemble un mariage d'amour, de fortune et d'ambition. Encore jeune et belle, Madame Ferraud joua le rôle d'une femme à la mode et vécut dans l'atmosphère de la cour. Riche par elle-même, riche par son mari, qui prônait comme un des hommes les plus capables du parti royaliste et l'ami du roi, semblait promis à quelque ministère, elle appartenait à l'aristocratie, elle en partageait la splendeur. Au milieu de ce triomphe, elle fut atteinte d'un cancer moral.
Il est de ces sentiments que les femmes devinent malgré le soin que les hommes mettent à les enfouir. Au premier retour du roi, le comte Ferraud avait conçu quelques regrets de son mariage. La veuve du colonel Chabert ne l'avait allié à personne, il était seul et sans appui pour se diriger dans une carrière pleine d'écueils et pleine d'ennemis. Puis, peut-être, quand il avait pu juger froidement sa femme, avait-il reconnu chez elle quelques vices d'éducation qui la rendaient impropre à le seconder dans ses projets. Un mot dit par lui à propos du mariage de Talleyrand éclaira la comtesse, à laquelle il fut prouvé que si son mariage était à faire, jamais elle n'eût été Madame Ferraud. Ce regret, quelle femme le pardonnerait? Ne contient-il pas toutes les injures, tous les crimes, toutes les répudiations en germe? Mais quelle plaie ne devait pas faire ce mot dans le cœur de la comtesse si l'on vient à supposer qu'elle craignait de voir revenir son premier mari? Elle l'avait su vivant, elle l'avait repoussé. Puis, pendant le temps où elle n'en avait plus entendu parler, elle s'était plu à le croire mort à Waterloo avec les aigles impériales en compagnie de Boutin. Néanmoins, elle conçut d'attacher le comte à elle par le plus fort des liens, par la chaîne d'or, et voulut être si riche que sa fortune rendît son second mariage indissoluble, si par hasard le comte Chabert reparaissait encore. Et il avait reparu, sans qu'elle s'expliquât pourquoi la lutte qu'elle redoutait n'avait pas déjà commencé. Les souffrances, la maladie l'avaient peut-être délivrée de cet homme. Peut-être était-il à moitié fou, Charenton pouvait encore lui en faire raison. Elle n'avait pas voulu mettre Delbecq ni la police dans sa confidence, de peur de se donner un maître ou de précipiter la catastrophe. Il existe à Paris beaucoup de femmes qui, semblables à la comtesse Ferraud, vivent avec un monstre moral inconnu ou côtoient un abîme. Elles se font un calus à l'endroit de leur mal et peuvent encore rire et s'amuser.